Bon, je crois que je vais pouvoir commencer. Bonjour, je suis Benjamin Octabanou, je suis un des cofondateurs de Regard Citoyen. Regard Citoyen, c'est une association qui existe maintenant depuis 2009 et qui essaie de faire de l'open data en France, appliqué avant tout à des questions de transparence de la vie démocratique et de la vie politique, un sujet qui est assez porteur en ce moment depuis les affres de notre cher Jérôme. L'idée, c'est un peu, j'ai appelé cette conf quand le libre se mêle de démocratie, parce que c'est un peu ça, c'est essayer d'appliquer les principes du libre. Alors, je sais pas, j'imagine que beaucoup de gens ici sont familiers avec les idées du libre, et donc d'essayer de voir dans quelle mesure on peut développer un peu ces idées et les passer sur les questions démocratiques. Alors, en soi, la démocratie, en fait, c'est quelque chose qui, depuis très longtemps, a été pensé avec certains principes de transparence. On a un journal officiel dans lequel on a une liste des informations qui correspondent à qu'est-ce qui s'est passé effectivement sur la vie politique, enfin la vie de la démocratie française notamment. Ce journal officiel contient un certain nombre d'informations. Initialement, Regard Citoyen, c'était quoi ? C'était à la base quatre jeunes passionné de questions notamment numériques. On avait été suivre à l'Assemblée nationale les débats en direct sur Adopi, mais aussi sur la DADVSI, qui était sa prédécessrice en 2005. On s'est aperçu en fait que poursuivre les débats de manière intéressante, il était possible de fouiller le site de l'Assemblée nationale ou de fouiller le journal officiel ou le site du Sénat pour trouver plein d'informations. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'informations sur ce que font nos représentants à l'Assemblée nationale, nos représentants au Sénat, même si en général on n'en sait rien et on a très peu d'idées de ce qui se passe effectivement. Donc du coup, on s'est dit que nous, dans la mesure où sur les questions comme Adopi ou la DADVSI, on essayait de faire un petit peu d'activisme, de pointer du doigt les députés qui venaient et se contentaient de voter ce que le gouvernement disait sans pour autant suivre les débats et lisaient leur journal dans un coin alors que y avait des votes importants et qui se contentaient de lever la main en faisant exactement ce que le gouvernement leur demandait, ce qu'on appelle les godillots. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais donc, pour faire ça, on utilisait déjà les informations qui sont disponibles sur le site officiel et on allait fouiller au fin fond de ce site qui est très riche mais très compliqué d'accès et où il faut cliquer 50 000 fois avant d'arriver à la moindre information que recherchée. Et donc, du coup, on s'est dit qu'avec nos compétences techniques, c'était possible peut-être de récupérer toutes ces informations et de les remettre à disposition des autres pour que n'importe qui, et pas seulement les gens qui sont un peu informaticiens et un peu avec des compétences pour aller fouiller comme ça, essayer de rendre ces informations accessibles à tous. Donc du coup, Regard Citoyen s'est créé du coup pour sortir ce site nosdéputés.fr qui a depuis un petit frère qui s'appelle nosénateurs.fr qui fait la même chose sur le Sénat. Et nosdéputés.fr, c'est quoi ? C'est un site où l'objectif, c'est de mettre en valeur toutes ces informations qui sont propres à l'activité des parlementaires, à ce que font concrètement les députés à l'Assemblée, pas ce qu'ils vont faire sur le marché quand ils vont aller serrer les mains dans leur circonscription, c'est des activités propres aux députés, mais qui ne sont pas l'activité parlementaire au sens propre. Et donc, toutes ces informations, que ce soit, je ne sais pas, un député, quand il est à l'Assemblée nationale, il fait plein de choses. Il peut poser des questions, écrites ou orales, il va produire des rapports, il va débattre pendant les réunions de commission ou les réunions ou les plénières en hémicycle. Toutes ces informations, il y a des comptes rendus, elles sont publiées au journal officiel, et donc on peut les récupérer et les représenter pour donner un premier aperçu déjà aux citoyens de qu'est-ce que fait notre députée. Alors là, je vous ai mis exprès la page d'une députée du coin, Catherine Lemorton, qui est une députée particulièrement active à l'Assemblée. On voit sur son graphe qu'il y a de grosses zones en jaune. Alors quand c'est en jaune, c'est qu'il parle. Quand c'est en rouge, c'est qu'il est venu mais qu'il ne parlait pas. Quand on ne voit rien, c'est qu'il n'était pas là cette semaine-là. Alors on ne voit pas bien, je crois, sur le cas de Catherine Lemorton. Si on voit deux, trois petits pics ici, ça c'est la présence médiane de tous les députés, ce qui permet du coup de faire un comparatif. Alors j'ai pas... Je ne vous ai pas mis un autre exemple là directement, il faudrait aller chercher, mais on pourra en trouver d'autres où justement voir la médiane permet de se faire une idée de effectivement dans quelle mesure les députés sont plutôt des députés qui remplissent leur rôle de députés à l'Assemblée et non pas uniquement sur le marché. Donc toutes ces infos sont issues de sites officiels et on peut du coup déjà faire des premières analyses pour essayer d'identifier par exemple les sujets d'expertise du député. En analysant chacune des interventions qui vont être prononcées par chacun lors des débats, on peut essayer d'extraire un nuage par exemple de mots-clés où on s'aperçoit que Madame Le Morton est particulièrement... Je suis allé trop vite. Madame Le Morton est particulièrement impliquée sur les questions d'assurance, de complémentaires maladies, a priori, d'embryon. Donc je pense qu'elle a beaucoup parlé sur les questions du mariage pour tous également. Voilà. Donc ça, c'est un aperçu. Et en fait, le site, en récupérant toutes les informations, constitue une base de données quantitative, notamment. On va pouvoir, du coup, faire des analyses quantitatives et avoir une première approche synthétique de ce qui se passe effectivement à l'Assemblée. Donc là, en fait, on va voir, c'est une représentation qui est proposée sur chacun des sites, de l'ensemble des travaux sur l'année passée pour chaque groupe politique, donc avec une répartition par groupe politique. Et donc, on peut voir que pour les députés, donc en ce moment, donc on a une majorité socialiste. Donc ça, c'est les députés. Donc on voit qu'effectivement, il y a une majorité de socialistes avec un peu moins d'UMP et puis les petits groupes à côté. Et on s'aperçoit qu'en fait, en gros, quand ils vont en commission, ils parlent à peu près proportionnellement à leur répartition, en fait, ce qui est assez naturel. C'est-à-dire que en commission, ils s'investissent tous plus ou moins pareil, les différents groupes, et que du coup, ils parlent en fonction du nombre qu'ils sont. Par contre, on s'aperçoit que, par exemple, en hémicycle, visiblement, l'UMP a une volonté d'essayer de parler plus que sa présence, en fait. Donc on a deux types d'interventions, les interventions longues ou courtes, parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé les débats parlementaires, mais ce qui se passe, c'est que très régulièrement, il y en a un qui parle, et puis il y en a d'autres qui vont crier « mais c'est pas possible, c'est scandaleux », ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les interventions courtes, et qu'on aime bien appeler invectives également, et que du coup, on essaie de compter différemment des autres. Donc on a mis un critère à 20 mots, tout ce qui est en dessous de 20 mots, c'est ce qu'on appelle invective, et ça permet de remarquer qu'un député était effectivement présent, mais ça ne permet pas de dire qu'il a vraiment participé au débat. Un des aspects intéressants de regarder ça, c'est les amendements, où c'est structurel à la nature des amendements. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept d'amendement. Le Parlement, en gros, une de ses fonctions principales, c'est de débattre des textes qui sont proposés par le gouvernement ou qui sont proposés par les députés eux-mêmes, et de lire ces textes article par article et de modifier éventuellement ce qui a pu être écrit dans un article pour dire le gouvernement propose de mettre à 75 000 euros le montant à 75% le pourcentage de pour les impôts pour les plus riches par exemple, un député va dire 75, en fait moi je vais mettre c'est plutôt 70, et donc du coup il va proposer un amendement dans lequel il va dire là où il y a écrit 75 vous remplacez par 70. Donc ça c'est un amendement, et du coup les députés ont vocation à poser des amendements pour modifier les textes. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand on regarde les débats, en fait l'UMP il va poser beaucoup d'amendements parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec le texte du gouvernement. Par contre, ceux qui sont adoptés, évidemment, c'est majoritairement les amendements qui viennent de la majorité, donc en l'occurrence du Parti Socialiste. Donc voilà, donc ça permet... Ah, encore une fois, ça clique trop vite. Ça permet de se faire une idée, en fait, un aperçu quantitatif. On voit par exemple aussi que les propositions de loi, c'est un sujet dont le Parti Socialiste en fait se saisit très peu. Il y a très peu de propositions de loi qui viennent de la majorité. En fait, la plupart des propositions de loi viennent de l'UMP. Je ne vais pas m'attarder sur ces chiffres. Au-delà de cette approche quantitative, on aime bien dire on pense que le point central de nosdéputés.fr, c'est aussi une approche qualitative. C'est permettre aux gens d'avoir une vision plus valorisée de l'activité des parlementaires et d'essayer peut-être de se rapprocher de ces élus. Parce que déjà, je ne sais pas si je posais la question dans la salle, qui sait qui est son député ici ? On n'a même pas la moitié de la salle. On a même, je dirais, un quart. Et donc, typiquement, si on va sur le site de l'Assemblée nationale, ce n'est pas évident non plus de le savoir. Donc, du coup, c'est une des premières choses qu'on souhaitait faire sur le site. C'est que vous avez une petite boîte sur la page d'accueil où vous tapez votre code postal, vous tapez le nom de votre ville, et ça va tout de suite vous trouver qui est votre député. Alors, des fois, ça ne marche pas, parce que des fois, y a, par exemple, à Paris, moi, j'habite dans le 3e arrondissement, et dans le 3e arrondissement, il y a deux députés. Il n'y a pas de solution magique. On trouve deux députés et il faut aller regarder la carte pour vérifier de quel côté on se trouve par rapport à la limite. Mais donc ça, c'est la première chose, trouver son élu. Ensuite, une des choses qui est possible aussi, à partir du moment où on reconstitue toutes ces informations, c'est de suivre, de savoir ce qui se passe effectivement. Et du coup, on propose, comme par exemple Google vous permet de vous inscrire à des alertes email à chaque fois que tel mot est cité dans l'actu, et ben on va vous proposer de recevoir un mail à chaque fois que votre député est intervenu. Ou à chaque fois que à l'Assemblée nationale a été évoqué un terme qui vous intéresse. Et ensuite, vous allez pouvoir lire en détail chacun de ces travaux. Ce n'est pas uniquement les compter. Vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il a dit effectivement et le commenter avec l'espoir initial quand on a créé le site que les députés viennent répondre et que puisse comme ça s'engager un dialogue entre les élus et les citoyens. Alors en pratique, on en est à 3 députés sur 577 qui ont une fois saisi leur clavier et répondu en ligne. Donc c'est un peu décevant, mais on ne désespère pas pour la suite. Et comme je disais, vous pouvez au-delà de ça, aller suivre carrément donc, des sujets. C'est-à-dire que le moteur de recherche, en fait, on indexe absolument tous les éléments qui sont dans la base. Et du coup, si vous voulez suivre, donc en l'occurrence, là, c'est une recherche sur données publiques ou informations publiques, puisqu'on va parler d'open data bientôt. Et donc, vous pouvez voir que c'est un sujet qui est assez évoqué à travers le temps. Donc là, on voit un graphe par mois. On trouve des résultats. Et puis ensuite, on peut aller filtrer si on veut chercher que les interventions, que les questions écrites. Alors, C'est un truc qui est vachement utilisé, notamment par les journalistes, parce que suivre toutes les questions écrites qui parlent d'Internet, je ne sais pas si vous connaissez PC Impact, Marc Ries, il adore. Je parle peut-être charabia pour certaines personnes, mais en gros, suivre à chaque fois que l'Assemblée pose des questions sur des sujets techniques qui intéresse un média spécialisé, ça permet de faire de la veille et du coup ça permet de mener son travail de journaliste en fait. Alors que l'Assemblée nationale ne propose ça malheureusement que sur les questions écrites et pas sur tout le reste. Alors en fait, en faisant ça, on en vient un peu à une métaphore philosophique qui a été énoncée par Lawrence Lessig. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec Lawrence Lessig, c'est notamment l'inventeur des Creative Commons, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Code and Other Laws of Cyberspace, et qui explicite là-dedans, en gros, que code is law. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, sur Internet, la loi, c'est le code informatique qui régit l'Internet. C'est-à-dire que, comme on a des lois et une constitution qui nous régissent dans notre société, et ben en fait, ce qui régit ça sur Internet, d'une certaine manière, c'est le code informatique qui est derrière chacun des sites et derrière chacun des serveurs qui vous fournit les sites Internet. Du coup, nous, on aime bien renverser cette métaphore et dire que law is code. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, un amendement, c'est quand un député va dire « là, tel mot, je souhaite le modifier par tel mot ». Ça, c'est quelque chose qu'en informatique, on fait tout le temps. On passe notre temps à travailler à plusieurs sur des bouts de texte, qui sont du code informatique, mais en fait c'est des bouts de texte, dans lesquels on va dire, là en fait j'ai fait un bug, donc du coup je vais corriger, je vais faire un patch, je vais aller modifier à telle ligne, ce ne sera pas la variable machin, ce sera la variable intel. Et du coup on va modifier du texte, et ce que font les députés en fait c'est exactement la même chose. Sauf que c'est pas le même formalisme, c'est le formalisme juridique au lieu du formalisme Java, Python, Bash ou je sais pas quoi. Et donc c'est un truc qui est à la mode en ce moment, que beaucoup de gens évoquent dans le terme git law, qui est un mot-clé qui vient de git, qui est un outil de versionnement de code. Alors le versionnement, c'est quand on travaille donc à plusieurs sur du code informatique, on va pouvoir avoir des outils qui vont permettre de travailler à plusieurs, de modifier à plusieurs en même temps le même bout de texte et de consolider ensemble les modifications faites par différentes personnes en même temps. Donc c'est exactement le besoin qu'ont les députés. Et donc du coup on a organisé comme ça une conférence l'été dernier à Paris où énormément de gens énormément de gens de profils vraiment très différents. Je crois que si on regarde bien, juste là, on voit Alexandre qui est derrière son ordinateur à gauche. Là. Si on regarde là, on a Daniel Dietrich qui est un hacker allemand. Là, on a, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais une autre responsable du Sénat. Là-bas, on a un hacker hongrois. Enfin, bref, on avait réussi à avoir à la fois des journalistes, des chercheurs, des institutionnels et des hackers entre guillemets du Parlement venant d'une vingtaine de pays différents. Ce qui a permis du coup de voir les différents projets qui se font dans cet esprit et d'essayer de réfléchir à des pistes pour aller plus loin. Donc du coup, les pistes comme ça, quand on essaie d'appliquer le code informatique, enfin d'appliquer les idées du code informatique à la loi, ça permet de faire des choses par exemple comme ça. Ça, c'est un projet qu'on a fait au tout début de Regard Citoyen, qu'on appelle Simplifions la loi 2.0. Je ne suis pas fan du 2.0, mais bon. L'idée, c'est de mettre le texte de loi tel qu'il est débattu, et, enfin, proposé par le gouvernement, puis débattu par les députés, sous la forme, en quelque sorte, d'un forum. C'est-à-dire que chaque article... Donc, alors un texte de loi, il va être divisé en sections avec des articles, et dans chaque article, vous allez avoir des alinéas qui vont décrire l'article. Donc là, on a un article de 4 alinéas. Et ben, du coup, chacun va être... Je vais trop vite encore. Chacun va être commentable, comme sur un forum. C'est-à-dire que chacun va pouvoir aller regarder chaque alinéa et dire « Attention, là, je pense qu'il y a une erreur. » L'idée à la base derrière ça, c'était sur le projet de simplification du droit qui avait eu... Vous n'avez peut-être pas entendu parler, il y avait eu un article qui était passé à la. Sans que personne n'en s'en rende compte, qui dédouanait, enfin qui exonérait la scientologie du risque d'être dissoute. Et c'était un truc qui était passé dans un texte qui n'avait rien à voir, et qui était passé comme ça au milieu des mailles du filet, on ne sait pas trop comment. Et donc l'idée, c'était un peu ça, c'était de débuguons le texte. Et si on permet à n'importe qui, à la foule, d'aller lire en détail les alinéas, et surtout de les comprendre. Parce que quand on regarde le texte officiel sur le site de l'Assemblée nationale, bah on voit ça. Après l'article L322-27 du Code des assurances, sont insérés les articles L322-27-1 et L322-27-2 ainsi rédigés, avec un appel encore à l'article machin, etc. Quand on ne sait pas ce que c'est que l'article L322-22 du Code des assurances, on est un peu perdu, et c'est un peu difficile de comprendre ce qui se passe effectivement dans cet article. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que pour chacun des articles, on ajoute automatiquement la description qui vient de la description officielle de l'ensemble du texte expliquant à quoi sert cet article. Et en plus de ça, on essaie d'ajouter automatiquement des liens vers Légifrance, qui est le site officiel d'accès à la loi, pour pouvoir, à chaque fois qu'il y a une référence juridique, cliquer et dire « Ah bah, donc c'est ça le texte qui est modifié » et pouvoir justement essayer de faire de comprendre ce qui se passe. Donc du coup, en fait, cette analogie entre le code et la loi informatique fait que si on utilisait sur la loi les mêmes outils qu'on a en informatique pour comparer les différentes versions d'un texte, on pourrait certainement faire beaucoup de choses nouvelles. C'est ça le concept du git law qui est à la mode dans les milieux techno-juridico-geek en ce moment. Vous connaissez tous Wikipédia où vous pouvez comparer deux versions. Là, c'est l'article sur le Sénat de Wikipédia. Donc on voit, ça c'était une version, ça c'était une autre version. Il y a quelqu'un qui est venu modifier le texte. Et donc du coup, on peut comparer les deux versions. Ça, c'est quelque chose de base que Wikipédia fait et qu'on fait comme ça dans les outils de versionnement informatique. Après, on peut aller plus loin avec Git ou SVN, qui sont les outils classiques en informatique. On a une fonction qui s'appelle blame. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en gros, dis-moi pour tout le texte, chaque ligne, qui est le dernier auteur de la ligne. Du coup, savoir qui est la dernière personne qui a modifié tel morceau du texte. Et du coup, ils permettent d'identifier l'auteur éventuel d'un bug. Ou, moi j'imagine très bien, demain on va prendre le code civil, on va faire git blame sur le code civil, et puis chaque ligne on saura, ça vient d'un amendement qui a été voté par machin à l'Assemblée nationale, suite à des débats qui disaient ça, etc. Et ainsi pouvoir retrouver l'empreinte législative, arriver à comprendre d'où viennent les codes de loi, et éventuellement pourquoi, et... C'est quelque chose qui est un besoin quotidien des juristes à chaque fois qu'il y a un procès et qu'il y a un débat sur un article spécifique où il y a deux avocats qui vont argumenter, et souvent il y a un besoin de retrouver quelle était l'intention du législateur, pourquoi est-ce que cet article a été voté. Et donc pouvoir faire ça, ce serait une évolution majeure au niveau du droit. Alors au-delà de ça, après on imagine que une fois qu'on a tout ça, on pourrait éventuellement faire des visualisations un peu plus riches qui permettraient d'essayer de comprendre. Donc ça, c'est une piste. C'est Ben Fry, un chercheur au MIT, qui a présenté sur une même visualisation toutes les versions du texte de Darwin, de l'origine des espèces. En fait, le texte de l'origine des espèces a évolué au fil du temps. Darwin en a produit 5 ou 6 versions différentes. Et du coup, c'est une manière de visualiser qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans chaque version et qu'est-ce qui avait été retiré au fur et à mesure. Donc du coup, on imagine très bien qu'on pourrait faire ça sur tout le processus parlementaire, où on partirait du texte du gouvernement jusqu'à la version qui arrive au journal officiel, et en fonction des amendements adoptés, arriver comme ça à voir dans quelle mesure le texte a évolué. Est-ce que les députés font vraiment la loi? Est-ce que c'est le gouvernement qui a tout écrit et qu'en fait les amendements qui ont été votés par les députés n'ont quasiment rien changé au texte ou pas? C'est une question qui se pose, que beaucoup de politologues se posent. Et donc, c'est une des pistes de ce projet qu'on essaie de mener. Alors, j'ai oublié de le préciser, ouais, on fait ça avec Sciences Po. C'est le seul financement que Regards Citoyens ait. J'ai oublié de le préciser, on est une association entièrement bénévole. On fait tout ça sur nos temps personnels le soir et les week-ends. Et donc, alors, un exemple de piste de visualisation. Alors, c'est assez laid, mais je vais quand même vous montrer parce que c'est rigolo. Alors voilà, donc l'idée c'est, on a fait ce que je vous explique sur un article de loi, donc là c'est un prototype, on l'a fait juste sur un article, donc c'est un article, l'article 1 du projet de loi de réforme de l'hôpital, qui avait été discuté, je sais plus, ça doit être, bah voilà, c'est marqué en haut, en 2008. Donc il y a on a d'abord l'article qui est proposé par le gouvernement, puis ensuite on va avoir les députés qui vont venir proposer des amendements sur le texte. Alors attention, c'est un peu long et c'est un peu fouillis. Tout d'un coup, là, il y a plein d'amendements de députés qui viennent, il y a le débat qui va arriver, et qui proposent des amendements qui vont aller chacun modifier l'article de la réforme de l'hôpital. C'était un très gros article, très compliqué. Donc il y a plusieurs séries de dépôts d'amendements. Vous allez voir, il y a un petit rush avant le 10 février parce que ils ont une deadline, ils peuvent pas poser d'amendements après une certaine date. Donc du coup, à cette deadline, ça s'excite un peu. Donc ça va être là, tout d'un coup, ça va s'exciter à nouveau beaucoup. Voilà. Alors juste dans la foulée, il y a un petit truc qui se passe, c'est que tout d'un coup, il y a le gouvernement et le rapporteur du texte qui vont venir ajouter des sous-amendements sur les amendements des députés. Parce que en gros, ce que propose le député, ça a l'air intéressant, mais on voudrait quand même le préciser un peu mieux. Donc du coup, ils vont faire ce qu'on appelle des sous-amendements. Donc vous voyez, on a ces deux petits points qui viennent en plus. Donc chaque petite boule bleue, là, c'est un amendement qui a été proposé. Et on a des petits amendements qui viennent en plus être sur les amendements eux-mêmes. Donc c'est des sous-amendements. Et alors ensuite, on va avoir le vrai débat en hémicycle qui va se passer. Et donc on va voir les députés venir à chaque fois qu'un amendement est effectivement adopté, prendre l'amendement et l'appliquer au texte, à l'article correspondant. Donc c'est ce qui va se passer dans les derniers instants. Donc voilà, donc là on a les députés qui sont à l'origine des articles, qui, à chaque fois que l'amendement est voté, s'il est adopté, viennent l'appliquer à l'article. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tout à la fin du texte, on a la séance, donc tout au milieu là, qui vient faire une grosse modification du texte. Alors ça, c'est la première découverte du projet, qui est assez intéressante, c'est que en fait, le texte qui ressort de l'Assemblée nationale n'est pas le texte qui vient du gouvernement amendé par les députés. C'est ça, plus plein de modifications esthétiques qui sont faites par l'administration de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas votées en fait dans les modifications du texte, qui sont juste l'administration qui dit « Ah non, mais ça, j'aime pas cette syntaxe, je vais le modifier comme ça. » Alors. Sur le fond, il faudrait étudier un peu plus en détail, mais a priori, il n'y a pas vraiment de problème démocratique, parce que c'est effectivement des virgules ou c'est des ABC qui sont devenus 1, 2, 3. Mais, mine de rien, ça pose quand même des questions. Et surtout, techniquement, nous, ça nous pose de gros problèmes, parce que l'idée qu'on avait initialement, c'était de partir des deux versions du texte, de faire la comparaison des deux textes et d'essayer d'identifier pour chaque modification à quel amendement ça correspondait. Malheureusement, vu que la différence entre les deux textes ne correspond pas en fait aux amendements parce qu'il y a plus de modifications, ça complexifie pas mal les choses. Bon, je m'arrêterai là sur cette explication technique. Ça me fait passer à un deuxième exemple de visualisation intéressante dans le même esprit, sur les liens cachés des amendements. Alors, donc les amendements, je vous ai expliqué rapidement comment ça marchait. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il serait peut-être possible de visualiser à partir de ces amendements quand des députés posaient les mêmes amendements. Des fois, il y a un député qui va dire « cet article-là, il faut le supprimer », et un autre député d'un autre groupe qui va dire « moi aussi, je pense que cet article-là, il faut le supprimer ». Du coup, ils proposent tous les deux le même amendement, et du coup, on a des amendements identiques. Et du coup, deux députés qui posent le même amendement, en soi, on pourrait se dire qu'ils ont une certaine similarité, une certaine proximité politique. Donc du coup, on s'est dit « on va essayer de représenter sur un graphe en 2D ». Alors, il faut bien comprendre que sur ce genre de graphe en 2D, tel que ce que je vais vous montrer, les positions X et Y ne correspondent pas à quoi que ce soit de scientifique. C'est juste des positions où on va placer les éléments à différents endroits et on va les rapprocher à chaque fois qu'ils sont liés entre eux. Donc du coup, alors attendez, je vais basculer tout de suite. C'est pas ça. Il est là. Voilà. Donc ça, c'est le texte de la réforme bancaire qui a été discutée il y a quelques mois. Et donc, vous voyez le positionnement en hémicycle, pour lequel je remercie d'ailleurs Alexandre aussi, parce que c'est lui qui a fait ce travail de carte, enfin de géolocaliser le numéro de place sur effectivement une position en XY. Et donc, on a donc tous les députés qui ont proposé des amendements sur ce texte. Et on a des petits traits qui sont un peu grisés, que on voit peut-être pas très bien, mais à chaque fois qu'il y a un lien entre deux députés, parce qu'ils ont proposé un amendement identique ou co-signé le même amendement. Alors, du coup, ensuite, on applique un algorithme qui s'appelle Force Atlas, de spatialisation, où justement, on va rapprocher les députés en fonction du nombre d'amendements identiques, en fonction du nombre de liens qu'ils ont, en fait. Donc du coup, alors ça va prendre quelques secondes, ça va être un peu fouillis et pas compréhensible au début, et puis tout d'un coup, ça va former des choses qui vont paraître assez surprenantes, en fait. Alors on voit donc que, en fait, les députés qui sont donc les plus proches se regroupent, et on va se retrouver, en fait, avec un état plus ou moins stable, où on a un certain nombre de groupes clairement formés, rien que au sein du PS, on voit qu'il y a un gros groupe ici, un petit groupe ici, un petit groupe ici, un petit groupe ici. Donc ça correspond au fait que souvent, les députés, quand ils proposent des amendements, ils vont le faire à plusieurs. On va avoir un amendement qui va être signé par une quinzaine de députés à la fois, qui sont un petit groupe de sensibilité politique proche, et qui vont co-signer ensemble des amendements. Alors je vais arrêter le bazar. Voilà. Et donc du coup, alors là, sur le texte de la réforme bancaire, la rapporteure du texte, c'était Karine Berger. Donc on a le groupe autour de Karine Berger qui a proposé les mêmes amendements qu'elle. On a différents autres groupes au sein du PS. Alors je crois que ça, c'est les Strauss-Kahniens. Ça, c'est la gauche du PS. Et ça, c'est... Non, c'est ceux-là, la gauche du PS. Et ça doit être ceux-là, les Strauss-Kahniens. Et donc on a effectivement des groupes comme ça qui se créent. Et ça permet d'identifier déjà même au sein d'un même groupe politique les sensibilités politiques. Mais ce qui est particulièrement intéressant sur ce texte de loi, c'est qu'on a plein de cas particuliers, notamment Pierre-Yves Le Borgne, député socialiste, qui signe uniquement avec des députés UMP. Cette députée UMP, qui elle ne signe qu'avec les députés centristes. Ce député UMP qui signe la même chose que un peu tout le monde. Donc des Verts, des socialistes, des communistes, des radicaux centristes et des UMP quand même. Et surtout, la chose la plus étrange sur ce texte, c'est le FN qui se retrouve à l'intersection entre le PC, les Verts et le PS. Pourquoi ? Parce que c'est un texte sur la réforme bancaire, donc l'encadrement des... et que effectivement le positionnement politique du FN sur les questions économiques depuis quelques années a tendance à essayer plutôt de bouffer sur l'extrême gauche, et que du coup sur ce texte-là, effectivement, ils ont posé des amendements qui étaient similaires à ceux du PC ou des Verts. Donc ça, c'est un projet qui est malheureusement pas encore public. Je vous ai juste fait une démo rapidement. L'idée, c'est qu'on puisse faire ça sur chacun des textes de loi. L'objectif, c'est que ensuite, quand on cliquera sur un député, donc là, comme je vous montrais, on voit déjà ceux avec qui il a des liens. Mais l'idée, c'est que quand on cliquera, on pourra voir les amendements correspondants et du coup aller trouver quels sont les amendements sur lesquels effectivement il y a une similarité avec d'autres députés. Alors je sais pas si j'ai un autre texte intéressant à vous montrer là-dessus, je vais peut-être passer à autre chose plutôt, même si je sais pas si je résiste à vous montrer si ça marche, je sais pas si le réseau est assez rapide. Ça a pas l'air. Je voulais vous montrer le mariage pour tous, mais le mariage pour tous, il y a beaucoup beaucoup d'amendements en fait, et ouais. Ah si, voilà. Donc voilà, ça c'est les amendements sur le mariage pour tous. Donc il y en a très peu, en fait, vous voyez, du Parti Socialiste, énormément de l'UMP. Et alors du coup, en fait, c'est pas une spatialisation très intéressante, mais bon, bref. Mais bon, voilà, c'est un exemple de projet qu'on mène là-dessus, sur lequel, malheureusement, on n'a pas eu le temps de beaucoup avancer ces derniers temps. C'est un peu en plan depuis quelques semaines. Mais ça devrait intégrer nosdéputés.fr à terme. Donc voilà, bon, c'est un exemple. Je vais repasser à la présentation, et vous parler rapidement de quelques autres exemples. Alors, dans les projets que Regards Citoyens a pu faire dans, maintenant, c'est bientôt 4 ans d'existence, on a fait notamment une évaluation du redécoupage électoral. Il y a eu une, je ne sais pas si vous savez, il y a eu la carte des circonscriptions des législatives a été redécoupée. C'est-à-dire qu'on a décidé que les limites des circonscriptions n'allaient plus être les mêmes. Du coup, on s'est demandé s'il n'y avait pas un impact politique. Donc concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire essayer de cartographier sur la carte des circonscriptions de 2012 les résultats des élections de 2007. Et voir du coup si effectivement les résultats de 2007 auraient été changés si on avait utilisé la nouvelle carte. Alors le problème de faire ça, c'est que ça nécessite d'avoir des données très précises, parce qu'en fait, il faut les avoir au niveau du bureau de vote, parce que le déplacement des limites des circonscriptions fait que des fois, on va déplacer un bureau de vote dans une autre circonscription, et du coup, il fallait avoir ce détail qui est assez rarement disponible. Aujourd'hui, l'État publie sur sa plateforme officielle de données publiques des résultats électoraux, mais il ne publie pas les résultats électoraux au niveau bureau de vote. Alors étrangement, le ministère de l'Intérieur veut bien nous les donner à nous, donc il s'est publié sur notre plateforme de données à nous. Mais donc c'est un travail déjà qui est assez pénible d'aller récupérer ça, puis ensuite d'avoir le détail de la géolocalisation de chaque bureau de vote. Donc ça c'est un travail qui a pris un peu de temps. Dans le même genre, on a essayé lors des élections en 2012 de suivre en direct les résultats des élections. Donc du coup on a demandé une autorisation pour être dans la salle de presse du ministère de l'Intérieur pendant les débats. Et on récupérait en fait les feuilles, parce qu'ils produisent ça sur des feuilles, ils ne veulent pas donner accès aux données directement. Les résultats de la participation en direct à midi et 17h par département. Et du coup, on se retrouvait avec des feuilles papier qu'on retapait pour les mettre dans une base de données et pour pouvoir les republier en direct et pour pouvoir faire des cartes plus rapidement que ce qui se faisait dans la presse de la participation. Alors, ce n'est pas le truc le plus intéressant au moment des élections, mais c'était histoire de faire un truc un peu innovant et un peu différent. De la même façon, on a produit une sorte de GIF où en direct, pendant que les résultats arrivaient au niveau du ministère, on cartographiait par commune le vainqueur. Ça c'est sur le second tour des élections présidentielles, donc on voit l'heure d'arrivée des résultats au fur et à mesure, et du coup ça montre aussi que quand à la télé on nous dit à 21h ça y est, le gagnant s'étend avec tant de pourcents, c'est pas vrai. Enfin, le résultat c'est une estimation et c'est ce que a priori, en fonction des chiffres auxquels on est à peu près sûr que le vainqueur sera, mais les résultats sont jamais tous arrivés à 20h. Ils finissent d'arriver, je crois le dernier il doit être à 23h ou à 1h du matin. Et ça c'est autre chose encore, c'est on a essayé de, vu qu'il y a eu une publication au journal officiel des noms de 500 signatures pour chacun des candidats à l'élection présidentielle, vous savez les fameuses 500 signatures de maire qu'il faut demander pour pouvoir être candidat, on a essayé de réassocier les noms de chacun de ces maires pour chacun des candidats à leur parti politique d'origine. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire non plus, parce que la base de tous les élus, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Donc on a une base de maire, une base de députés, une base de conseillers régionaux, etc. Il faut essayer de les retracer, de les relocaliser en fonction de là d'où ils viennent, pour arriver à, parce qu'il y a énormément d'homonymes. Mais du coup, ça permettait d'essayer d'analyser dans quelle mesure les signatures venaient, enfin de quel bord politique venaient les signatures de quel candidat. Et notamment pour Marine Le Pen, c'était assez rigolo de voir qu'il y avait quand même beaucoup de maires un peu UMP, un peu PS et droite, mais pas essentiellement extrême droite en fait, qui soutenait sa candidature. Une autre étude qu'on a faite avec Transparence International France, c'est sur le lobbying à l'Assemblée. Dans quelle mesure l'influence s'exerce effectivement. Alors il y a très peu d'informations, le lobbying c'est un truc qui est assez opaque, on ne sait pas trop ce qui se passe en fait, on ne sait même pas trop ce que ça veut dire le lobbying. Et du coup on est parti des rares informations disponibles publiquement, qui sont les auditions parlementaires, dans lesquelles en fait dans certains rapports, il y a une liste des personnes qui ont été auditionnées pour réaliser le rapport. Et du coup on a essayé d'identifier automatiquement la liste des auditionnés, on s'est aperçu que c'était présent que dans 38% des rapports, ce qui est déjà une question qui se pose en termes démocratiques. Depuis il y a eu une réforme du règlement qui est menée sur ces questions-là de lobbying, et notamment suite à cette étude a été annoncé que maintenant il serait obligatoire pour les députés de lister lorsqu'il y a eu des auditions les noms des auditionnés. Donc on identifiait automatiquement dans les rapports à chaque fois qu'il y avait des noms dans des listes. Et malheureusement, ça a donné 15 000 noms et il était difficile de traiter ces données. Donc on a fait un outil de crowdsourcing pour permettre à des citoyens, quand ils avaient 3 minutes pour numériser un lobbyiste, d'aller sur l'outil et de... Ils voyaient la ligne du rapport et ils remplissaient le sexe, le nom et la fonction et l'organisation correspondante. Et en une dizaine de jours, on a comme ça 3000 personnes qui nous ont aidés à numériser ces 15 000 noms. Chaque nom a été numérisé au moins 3 fois pour s'assurer qu'à chaque fois, il y ait les mêmes résultats venant des différentes personnes et que les données ne soient pas mauvaises. Et du coup, ça a permis comme ça ensuite d'essayer d'étudier quels étaient ces acteurs auditionnés, de s'apercevoir qu'en fait, il y a 48% quand même des auditionnés qui viennent du secteur public, 21% de syndicats, 16% d'entreprises, et donc d'essayer comme ça de voir qui sont effectivement les acteurs auditionnés. Ensuite, vu que chaque rapport a aussi des thèmes, on peut essayer de regarder dans quelle mesure cette répartition, quelle est-elle en fonction des thèmes politiques. Alors on s'aperçoit par exemple notamment sur les questions de la culture et d'Internet, étrangement c'est un des rares sujets sur lesquels les entreprises étaient majoritaires à 55% dans les auditions, ce qui est pas surprenant en fait quand on voit les résultats des textes comme Adopi ou Datsy qui correspondent. Donc il y a une réforme en cours du système officiel de registre des lobbyistes à l'Assemblée nationale. Nous, on n'est pas très satisfait de la proposition qui est faite. On estime que le registre tel qu'il est proposé par l'Assemblée... Donc il y a un registre qui permet aux représentants d'intérêt de s'enregistrer à l'Assemblée pour avoir le droit, entre guillemets, d'avoir accès à l'Assemblée et de pouvoir défendre des intérêts. Nous, on se revendique lobbyiste. On considère que le lobbying, c'est pas juste les actions de corruption et autres. Je veux dire, n'importe qui a besoin de défendre des intérêts, de défendre des points de vue, et il est important que tous les points de vue puissent être entendus par nos représentants et que ces points de vue soient entendus donc à la fois de manière pluraliste et surtout que ce soit transparent, qu'on sache qui a été entendu, comment et pourquoi. Et donc c'est ça qu'on défend. Le registre qui existe permet pas ça parce que en fait il sert à rien. C'est-à-dire qu'on peut s'enregistrer, mais ça va rien apporter de plus que si on n'est pas enregistré. Et du coup, il n'y a pas de raison pour les lobbyistes de vraiment s'enregistrer dessus, et du coup, ils ne le font pas. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'ils sont interdits à tout fonctionnaire parlementaire ou assistant parlementaire de rencontrer des gens qui ne sont pas enregistrés dans le registre. Et nous, on est les premiers à vouloir bien s'inscrire sur un type de registre. En faisant tout ça, on faisait de l'open data sans le savoir. C'est-à-dire que pour récupérer tout ça, on se retrouvait à créer et reconstruire des données qui pourtant étaient publiques à la base. Je veux dire, tout ce qui est sur l'Assemblée nationale, c'est des bases de données qui leur permettent de faire leur site internet, mais qu'on était obligé d'avoir des robots qui vont fouiller les sites officiels, qui extraient les pages HTML et qui reconvertissent les pages HTML en données brutes pour qu'ensuite on puisse les traiter et les intégrer dans notre base de données. Donc du coup, naturellement, quand on a créé nos députés.fr, le premier réflexe c'était on va redistribuer les données pour que d'autres personnes puissent à leur tour les réutiliser et en faire un meilleur usage. Ça, en fait, c'est les idées de l'open data. À l'époque, en 2009, ça n'existait pas trop en France, le mot n'était pas encore trop employé. Perso, je ne l'avais jamais entendu avant. Mais donc, du coup, on a commencé à se lancer un peu. Alors, des exemples rapides, ça c'est le plus classique, c'est la première DataViz de l'histoire. C'est un médecin, John Snow, qui en 1854, il y avait une épidémie de choléra à Londres, et a décidé de représenter sur une carte les endroits où il y avait le plus de gens qui étaient atteints par le plus de cas de choléra. Et il s'est aperçu comme ça qu'en fait, les endroits où c'était le plus concentré, c'était à côté des puits. Et c'est comme ça qu'il a identifié que le choléra venait d'une épidémie liée à l'eau. Et donc c'est une jolie histoire. Ça c'est un autre exemple qui est fait aussi à nouveau par Alexandre, qui est ce que je parlais tout à l'heure de la localisation de l'hémicycle, qui réutilise les données de nos députés.fr pour cartographier sur l'hémicycle ceux qui sont les plus investis sur des sujets particuliers. Donc là en l'occurrence je crois que c'est les amendements. Donc voilà, on voit que le groupe GDR, donc les communistes, était très prompt à poser des amendements à l'époque. Un autre exemple, c'est le Mémopol, la mémoire politique de la Quadrature du Net, qui réutilise des données qui viennent de nos députés.fr pour l'Assemblée nationale ou qui viennent de Parltrack, qui est un équivalent pour le Parlement européen. et qui récupère toutes ces informations et les associe à des jugements sur les votes. C'est-à-dire que la Quadrature du Net a des avis sur certains votes spécifiques et donne des recommandations aux élus. Il faut que vous votiez ça ou il faut que vous votiez ça. Et du coup, en fonction du résultat, ils vont associer et classer les députés en fonction de ceux qui sont les plus proches de leurs préoccupations ou non. Donc ça, c'est un autre exemple de réutilisation qui est possible uniquement à partir du moment où les données sont mises à disposition. Et c'est grâce en fait à cette redistribution des données que ce travail est possible ensuite. Alors, je ne vais pas m'attarder sur OpenStreetMap parce que Sébastien fera un point dessus ensuite. Mais donc, c'est un autre exemple d'Open Data, c'est le Wikipédia de la cartographie. Donc là, c'est la place du Capitole. À gauche, vous avez sur OpenStreetMap et à droite, vous avez sur Google Maps. Donc, je vous laisse voir ce qui semble le plus cool. Mais en gros, ouais, l'Open Data, c'est quoi en fait ? En fait, l'open data, c'est mettre à disposition les données pour qu'elles puissent être réutilisées librement. On parle essentiellement des données du service public, des données non personnelles. La loi, à l'origine, le définit clairement. On ne parle pas de traiter des données sur la vie privée des gens. Et évidemment, non soumises au secret. Enfin, on ne va pas parler de libérer les données de secret défense. L'open data, ce n'est pas Wikileaks. Concrètement, pour assurer qu'il y ait tout le monde sur un pied d'égalité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lever toute barrière à la réutilisation. Les barrières, elles peuvent être de trois natures, financières, juridiques ou techniques. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire des licences libres pour les barrières juridiques, pas de la gratuité, les données doivent être gratuites, et au niveau des barrières techniques, c'est des formats ouverts, c'est-à-dire CSV, JSON, XML, pas du Excel, parce que quand on est en train d'essayer de programmer logiciel qui va essayer de traiter des données et de les analyser automatiquement, bah, il ne va pas savoir ouvrir le fichier Excel et trouver que dans la colonne machin où il y a un style machin et que ces trois cellules-là, elles ont été fusionnées ensemble, etc., ça ne va pas marcher. Donc voilà, donc ça c'est les trois principes de base de l'open data. En France, il y a un historique un peu, ce qui remonte en fait assez loin. On était parmi les premiers pays à avoir une loi d'accès aux documents administratifs en 1978. Ça n'était que pour l'accès. C'est seulement en 2005, quand il y a une directive européenne, PSI, qui a établi le droit à la réutilisation des données publiques et qui a ensuite été transposée en France. En 2009, on a aidé avec la NetSquad, la FING et Silicon Sentier notamment, j'en oublie peut-être un, à faire un Open Data Camp à Paris. C'était donc une des premières fois qu'on parlait vraiment un peu d'Open Data en France. Très vite après, se sont ouvertes les premières plateformes Open Data de collectivités publiques, la ville de Rennes, la ville de Paris notamment. De la société civile sont venues d'autres plateformes de données, nosdonnées.fr que nous on héberge et Data Publica qui est une petite start-up qui de son côté également propose un catalogue de données. Et enfin en 2011, l'État s'est mobilisé, a créé la mission EtaLab en charge de data.gouv.fr, le portail officiel des données publiques françaises. Mais l'open data, ça part quand même de la base, c'est un mouvement bottom-up, grassroots. Qui vient en fait de petites associations, pétitions, lettres ouvertes, tracts, qui sont proposés par des gens pour essayer d'inciter à la fois de familiariser le grand public avec le concept et en même temps de pousser les collectivités, les élus à ouvrir leurs données publiques parce que c'est un besoin aujourd'hui. Et voilà, donc à Toulouse, il y avait une lettre ouverte notamment qui avait été rédigée. Je crois que Sébastien en parlera plus juste après. En France, donc il y a Libertic qui mène comme ça ce travail de faire une carte qui permet de suivre au fur et à mesure l'évolution en France. Donc on voit en vert les zones, les territoires où il y a effectivement des catalogues de données open data. En bleu, c'est en réflexion, je crois, et en rouge, c'est les points où justement il y a une mobilisation citoyenne, mais il n'y a pas encore de suivi au niveau officiel. Alors au niveau national, la situation, c'est que donc l'équipe a été créée en janvier 2011, l'équipe EtaLab. Ils ont sorti la première plateforme data.gouv.fr en décembre. Le travail qui a été fait au début était plutôt très bon. Il y a eu un décret qui a été posé pour imposer la gratuité par défaut pour toutes les données, à l'exception d'une cinquantaine qui étaient déjà payantes auparavant. Il y a eu une licence ouverte qui a été créée par EtaLab. Alors les grincheux pourraient dire pourquoi encore une nouvelle licence, effectivement. Mais bon, disons qu'ils avaient envie de s'assurer que c'était bien leur texte, etc., et qu'ils validaient bien les bons critères selon eux. Donc c'est un modèle BY. BY, dans les Creative Commons, ça veut dire en gros que quand vous utilisez les données qui sont sur Etalab, vous avez pour seule condition de devoir citer la source, ce qui semble assez naturel quand on traite de données publiques. Malheureusement, sur le troisième principe, la troisième barrière, ils n'ont pas tout compris encore. Et il y a 95% de données qui sont en Excel sur data.gouv.fr, ce qui pose beaucoup de soucis et qui fait qu'en fait, à l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment utiliser les données de data.gouv.fr. Donc du coup, c'est dans les chantiers à venir pour les prochains mois, c'est l'ouverture des formats. Donc on dialogue de manière régulière et on vient de rentrer au réseau d'experts d'Etalab pour conseiller Etalab sur ces questions. Donc pour nous, la priorité aujourd'hui, c'est de convertir en format ouvert les données qui sont présentes sur le catalogue. Il faut aussi refondre la plateforme parce que le moteur de recherche à l'heure actuelle est très inefficace. Pour faire de la com, au lancement, ils ont publié volontairement 355 000 jeux de données sur le catalogue. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, 355 000 jeux de données, ça fait beaucoup. Et du coup, quand on cherche des choses, on trouve plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on cherche. Et alors que pourtant, en fait, en vrai, des jeux de données dans les 355 000, en fait, c'en est 5 000. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Ils voulaient être numéro 2 derrière les États-Unis dans le monde. Donc du coup, ils ont cherché à avoir un gros chiffre. Et comment on fait un gros chiffre ? On demande à l'INSEE de donner un jeu de données par recensement, par année, par commune. Il y a 36 000 communes, il y a 10 années de recensement, je vous laisse faire le calcul. Enfin, le dernier point essentiel à régler en termes d'open data aujourd'hui, aux yeux de regard citoyen, c'est la question des quelques données encore payantes. Qui malheureusement, celles qui existent, qui sont payantes, sont souvent des données parmi les plus centrales au niveau démocratique. Je parle de la base des marchés publics. Aujourd'hui, si vous voulez réutiliser la base des marchés publics, c'est 36 000 euros par an. Si vous voulez traiter du journal officiel, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le traitement des codes de loi, etc., c'est des choses qu'on aimerait vraiment pouvoir automatiser au-delà du processus parlementaire, directement dans le code de loi. Malheureusement, on ne peut pas, parce que si on veut réutiliser les données des codes de loi, c'est pareil, ça coûte des fortunes auprès d'administrations. Et pourquoi ? Parce que en fait, ces administrations se font lobbyer par leur principal client, qui, en gros, veut pas qu'il y ait de l'open data sur ces données-là parce que son business, c'est d'acheter les données pour les revendre avec quasiment aucune modification. Et du coup, forcément, s'il y a une concurrence gratuite à côté, ça va pas leur plaire. Je parle aussi du registre des entreprises. Il y a quand même le fait de savoir la liste de toutes les entreprises françaises avec, vous connaissez peut-être société.com, il y a énormément d'informations dessus. Société.com achète la base Sirène, pareil, une fortune. Donc c'est des données c'est des données publiques qui sont déjà financées, qui n'ont pas de raison d'être vendues, mais qui sont vendues parce que c'est un héritage, entre guillemets, et sur lequel il faut évoluer. Je ne m'attarderai pas sur les deux dernières et puis je vais passer la main à Sébastien pour nous présenter OpenStreetMap et l'Open Data à Toulouse. Merci.
Bonjour. Alors, je ne vais pas vraiment vous parler d'OpenStreetMap, je vais en deux mots vous expliquer ce que c'est, mais je vais rebondir sur le discours de Benjamin et vous expliquer un petit peu, d'une part, l'intérêt de l'open data pour la géographie et d'autre part, ce qui se passe à Toulouse en termes d'open data. Donc, moi, pendant 13 ans, j'étais au conseil d'administration de l'April. J'ai acquis une culture juridique qui m'est utile dans ces démarches open data. Et je suis depuis déjà 4 ans un contributeur massif d'OpenStreetMap. Comme l'a dit Benjamin, OpenStreetMap, qu'est-ce que c'est ? C'est une base cartographique réalisée sur un mode collaboratif comme les Wikipédia. Pour l'encyclopédie. Donc nous disons souvent pour faire comprendre aux gens que OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la cartographie. C'est un Google Map, mais avec des données libres, réalisées par, à l'heure actuelle, un peu plus d'un million de personnes à travers le monde. Au début, c'est né en 2004, c'était très simple. Nous avions une source unique d'information, c'était les données GPS collectées par les utilisateurs. Ces données étaient envoyées sur un site, ça faisait une collection de traces. Ces traces après étaient retravaillées pour donner des vecteurs, et après des outils de rendu créés, notamment des cartes, ou permettaient de faire du guidage de voiture. Mais vous voyez très bien qu'à partir du moment où on travaille avec des traces GPS, ce sont essentiellement des axes. Les relevés de bâtiments et choses comme ça sont des choses très fastidieuses. Et c'est là qu'on s'aperçoit de l'apport des données ouvertes, donc de l'open data. Grâce à des données, alors à gauche j'ai mis l'orthoimage. Parmi les organismes français, l'un des premiers à avoir libéré de la photographie aérienne, ça a été le Centre Régional Auvergnat pour l'Information Géographique, qui a diffusé sous licence libre son fonds photographique, et qui a autorisé notamment, du coup, OpenStreetMap à l'utiliser, comme tout le monde. Ça nous donne une information spatiale, ça nous permet de corréler. Nous avions effectivement toujours les données des contributeurs. Corinne Landcover, là, c'est une initiative européenne. C'est le traitement d'images satellites qui a permis de déterminer, avec une précision relativement intéressante, la couverture des sols à l'échelle européenne. L'administration en charge de la partie française de Corinne Landcover nous a donné accès aux données de Corinne Landcover et nous a autorisé à les importer dans OpenStreetMap. Et depuis 2009 ou 2010, je crois, il y a DGFiP qui nous autorise à utiliser les données cadastrales. Données cadastrales anonymisées. D'accord, la DGFiP est fait très attention à la non-dissémination des informations personnelles. Et ce ne sont pas les informations personnelles qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir géolocaliser des bâtiments, des choses comme ça, pour faire des cartes plus précises. Et au final, on voit que toutes ces données enrichissent la carte. Nous permettent d'enrichir la carte. Nous pouvons même imaginer aller plus loin. Je vous ai mis ce que donne le rendu par défaut d'OpenStreetMap à gauche. Nous pouvons récupérer des modèles numériques de terrain, par exemple réalisés par la NASA et l'Agence spatiale japonaise. Certaines collectivités territoriales libèrent tout un tas d'informations qu'elles ont, notamment par exemple la hauteur des bâtiments. Et donc, en utilisant les deux premières sources, on arrive à faire, et en changeant le rendu, en indiquant au logiciel qu'ils doivent rendre autrement les informations, nous arrivons à faire des cartes comme celle de France Topo, avec des données altimétriques, des ombrages de terrain, enfin vraiment quelque chose de très enrichi. Et puis on peut carrément basculer sur un modèle 3D où là on a la numérisation en trois dimensions de ville. Je vous ai parlé de données ouvertes. Comme l'a bien expliqué Benjamin, elles ne se libèrent pas toutes seules, ces données. Il faut que des citoyens se mettent en tête de pousser un petit peu. Alors, que s'est-il passé à Toulouse ? En avril 2011, un collectif de citoyens, dont je fais partie, a écrit une lettre ouverte à Pierre Cohen, lui demandant l'ouverture d'un portail Open Data. En parallèle, j'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec des juristes et le service géomatique de la ville de Toulouse, et je leur ai expliqué notre projet. Il s'est trouvé que nous avons été très bien accueillis parce qu'il y avait en interne un projet en gestation, mais qui se heurtait à beaucoup d'obstacles. Une certaine frilosité, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est attendu? Est-ce qu'on a le droit? Et lorsque les élus ont reçu cette lettre, ça a permis de faire voler en éclats tous les obstacles internes et donc d'activer ce projet en gestation. À la limite, le problème que j'ai eu, moi, après, c'est parce qu'en fait, évidemment, sur la durée, je me suis mis à rencontrer les services techniques. Ça a été un trop-plein d'enthousiasme des services techniques qui voulaient carrément injecter leurs données dans OpenStreetMap et tout écraser. Non, ce n'était pas tellement ça le problème. Nous, on leur dit, nous, ce que nous vous demandons, c'est d'ouvrir les données, de les mettre à disposition sur Internet, et les gens compétents et intéressés, il faut une motivation, utilisant ces données au mieux pour les différents besoins. Parce que OpenStreetMap n'est pas le seul utilisateur potentiel de ces données. Il y a plein d'associations, d'entreprises, de citoyens qui peuvent vouloir utiliser ces données. Donc injecter les données dans OpenStreetMap, ça n'a juste aucun sens. Et là, je dois reconnaître que j'ai été plutôt scotché. Parce que non seulement nous avons eu un bon accueil, mais l'équipe de la Toulouse Métropole, enfin à l'époque c'était Grand Toulouse, a constitué une sorte d'équipe commando, embarquant les services techniques, une juriste qui était aussi chef de projet, et en lien avec des élus nommés et en charge de décider sur le sujet, de ce qui pouvait être fait et pas fait. Et ils nous ont annoncé un calendrier à 6 mois. Ils nous ont dit, voilà, dans 6 mois, c'est la novella, on ouvrira. Et là, franchement, ayant travaillé dans le passé avec différentes administrations, sachant un petit peu comment ça se passe et tout, je n'y ai pas cru un instant. Mais bon, ils m'ont annoncé un calendrier à 6 mois, soit. Eh bien, ils m'ont vraiment scotché parce qu'ils ont tenu ce calendrier. Et en novembre 2011, en octobre 2011, ils ont ouvert le portail Open Data. Bon, l'April a été, notamment moi, nous avons été très utiles entre-temps parce que nous avons apporté la réflexion sur la licence. Nous avons pu obtenir une licence. Excusez-moi, nous avons pu obtenir une licence vraiment intéressante pour les données, une licence libre. Et au final, nous avons des données qui ont été publiées en octobre, dont la publication a commencé en octobre donc 2011. Et ça, c'est le portail actuel Open Data de la ville de Toulouse. Donc, vous pouvez aller voir. Alors, il y a 70 jeux de données. Alors, 70 jeux de données par rapport à 500 000, comme l'a expliqué Benjamin, ça ne fait pas beaucoup. Mais voilà, on appelle ce qu'on veut un jeu de données. Et il y a vraiment au milieu des données très très intéressantes. Il y en a d'autres qui, franchement, de vous à moi, ne sont pas passionnantes, mais il y a un effort. Donc ça, franchement, c'est très intéressant au niveau de la ville de Toulouse. Maintenant, si je dresse un petit bilan, il est mitigé. Pourquoi ? J'ai été vraiment très impressionné par la motivation, le dynamisme de l'équipe et la façon dont ils ont répondu à nos attentes. Nous sommes des libristes, et notamment à l'April, nous sommes très à cheval sur les licences. Et on peut bien me donner des données, me les filer sur une clé USB et me dire « allez-y, faites ce que vous en voulez ». Tant que je n'ai pas un document écrit qui me dit « si, c'est de la donnée ouverte et vous pouvez la réutiliser », je ne l'utilise pas. Et donc, aux yeux des services techniques, je suis passé pour quelqu'un de très pénible, un peu psychorigide. Voilà. Ils m'ont même dit un jour « vous êtes plus pénible que l'administration ». Est-ce un compliment ? Je ne suis pas sûr. Bon. Mais en tout cas, bon, ça a fait un premier jet intéressant. Le problème, c'est que depuis, les nouvelles données nous ont plein de besoins. Vous avez Theta Neutral là-bas, qui est en train de déployer des réseaux Wi-Fi, qui aurait besoin d'un modèle numérique de terrain. Nous savons qu'ils l'ont. Nous l'avons demandé, ils nous ont dit oui, ça va arriver. Ça fait à peu près un an et trois fois qu'on le demande. Et ensuite, il y a des citoyens qui sont plus préoccupés. La donnée géographique, ce n'est pas très impliquant. Enfin, vous donnez la topographie des voies, le nom et tout, la toponymie aussi, bon, soit. Mais beaucoup de citoyens se préoccupent de transparence démocratique, demandent la publication de budget, de différentes informations. Et là, par habitude, pas forcément parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher, mais parce qu'ils ne savent pas, ils sont beaucoup plus méfiants, les politiques. Et donc, ils freinent à libérer de la donnée budgétaire ou autre. Et beaucoup de citoyens qui sont soucieux de transparence démocratique sont un peu déçus, restent sur leur faim. Et ça a provoqué des billets qui ont fait un peu mal, qui étaient très acides sur le net. Voilà, donc il y a une pression actuellement sur la communauté urbaine pour qu'elle libère de ce type de données. Elle a commencé à publier des budgets primitifs, mais nous sommes encore loin de ce que nous voulions. Voilà. Et vite fait, juste pour dire que cette démarche que nous avons entreprise au niveau des données des collectivités publiques s'applique aussi avec des acteurs privés. Je l'ai fait en 2010 avec Spotimage. Ce n'était pas de la libération de données, malheureusement, mais c'était de la mise à disposition de données. C'était déjà pas si mal pour une initiative qui, après, sert à tout le monde. Je vous remercie et nous allons peut-être passer aux questions.
Donc, est-ce qu'il y a des questions ?
C'était pour Regard Citoyen. Je vous avais contacté l'année dernière pour des informations sur le vote. Il y a deux questions en une. Vous m'aviez dit qu'on ne pouvait pas savoir quel député avait voté quoi parce que c'était un vote à main levée. Est-ce que c'est toujours le cas ? Et toujours dans ce mail, vous m'avez dit que vous n'aviez plus le droit d'accès à l'enceinte de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça aussi, ça reste encore d'actualité ?
Bon, alors, c'est deux questions en une. Je vais répondre à la deuxième d'abord. Il n'y a pas de droit d'accès. Alors, je ne suis pas sûr exactement de quel était le contexte du mail. Je ne me souviens pas exactement du mail, mais... Mais donc, en gros, sur le droit d'accès à l'Assemblée, n'importe qui peut aller assister au débat. Y a pas de... La seule règle, c'est de demander un ticket de séance à son député avant. Il faut y penser à le faire une semaine avant, mais n'importe qui peut y aller. Moi, j'invite tout le monde à le faire, parce que c'est mieux que le théâtre. Y a les rebondissements, les jeux de coulisses, c'est génial. Ça vaut vraiment le coup, et j'invite tout le monde à le faire. À ce niveau-là, y a pas de souci. Ce qui s'était passé, c'est que nous, on avait fait un truc, y a longtemps, où on amenait le trombinoscope pour essayer d'identifier qui était qui, et ensuite on faisait un site sur lequel on pointait ceux qui ne faisaient pas vraiment du travail parlementaire pendant les débats. Il y a eu une tentative de nous interdire d'utiliser le trombinoscope, ce qui finalement a donné lieu à un rappel au règlement d'un député et qui finalement a été validé et on nous a plus jamais fait chier. Si ce n'est qu'on nous déplaçait derrière l'opposition au lieu de derrière la majorité, histoire qu'on puisse plus voir ce qu'ils faisaient sur leur ordinateur. Après, c'est mon sujet préféré, donc c'est cool parce que j'avais pas trouvé le moyen de l'aborder dans la présentation et du coup tu me permets de le traiter, donc c'est cool. Les votes, c'est à mon avis et c'est notre principal plaidoyer vis-à-vis de l'Assemblée nationale depuis maintenant quelques années, c'est d'avoir la transparence des votes. Ça paraît fou, mais en France on est une des rares démocraties parlementaires où on sait pas qui vote quoi parmi les députés, et ça paraît surprenant mais pourtant c'est le cas. Alors en fait il y a trois types de votes. Il y a les votes à main levée qui représentent 90% des votes, et pour lesquels, en fait, si vous allez voir les débats, ça se passe comme ça, c'est qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas quelqu'un dans la majorité qui s'est exprimé différemment du gouvernement, ils savent que la majorité est majoritaire, et que du coup, ça ne sert à rien de voter, en fait. En gros, c'est ça l'idée. Donc du coup, ces votes-là, ils vont super vite. Et honnêtement, à titre personnel, je ne suis pas forcément pour qu'il y ait un scrutin électronique pour chacun des votes qui sont faits, parce que le mariage pour tous en ce moment, et ça durerait encore jusqu'à la fin de l'été. Parce qu'il y a un nombre de votes, si on doit voter avec un scrutin public électronique, ça prend au moins 5 minutes à chaque fois, parce qu'il faut sonner l'alarme, tous les députés sont rameutés pour venir voter dans l'hémicycle, etc. Du coup, ça prend beaucoup de temps, et je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Après, je pense qu'on pourrait, et ce n'est pas le cas, imposer que sur chaque article, il y ait un vote par scrutin public, par exemple, ou ce genre de choses. Alors après, ça, j'en viens aux deux types de votes par scrutin public. Il y a les votes par scrutin solennel et il y a les votes par scrutin dit public. Les scrutins solennels, on a le détail des votes. On sait qui a voté quoi. C'est quoi les scrutins solennels ? C'est environ 10% des votes électroniques. C'est ceux qui ont lieu le mardi après-midi après les questions au gouvernement, où on vote en général, enfin les députés votent en général sur l'ensemble d'un texte. Ils vont voter tout le texte de telle loi ou tout le texte de telle loi. Après qu'il a été discuté pendant des heures et des heures, où chaque article avait été examiné indépendamment. Pour les autres votes, ce qui se passe pendant les débats justement, on les appelle scrutins publics, et c'est là qu'il y a un gros souci de transparence à l'Assemblée nationale. Et ce qui est fou, c'est que quand on en parle aux députés, ils nous font « Ah bon ?» Ils ne le savent même pas. Qu'est-ce qui se passe ? On a de publier la liste du nombre de députés dans chaque groupe politique qui a voté, le vote du groupe politique, et les noms des quelques députés du groupe qui ont voté différemment de leur groupe. Ça pourrait être très bien si tous les députés étaient là tout le temps. Parce que du coup, on pourrait deviner les noms de tous ceux qui ne sont pas listés. Sauf que comme ils sont 50 sur 200 ou ce genre de choses à être là, en fait, ceux qui ont voté de la même chose que le groupe, on ne sait pas qui c'est. Et du coup, alors c'est pas un désir de cacher ou ce genre de choses qui est fait par les services administratifs de l'Assemblée. C'est dans l'instruction générale du bureau, il est spécifié que les votes par scrutin public sont publiés de telle manière. Donc du coup, nous, on propose un amendement à ce texte-là qui peut malheureusement être décidé que par le président de l'Assemblée nationale, en gros, enfin par le bureau de l'Assemblée nationale qui est constitué du président, des vice-présidents, etc., qui consiste du coup à dire que tous les scrutins publics sont publiés de la même façon que les scrutins solennels, avec en plus une information complémentaire qui est l'idée de la délégation de vote. Parce que les députés peuvent voter par délégation, c'est-à-dire que s'ils peuvent décider, je vais voter pour un ami à moi qui n'est pas là, enfin un collègue à moi qui n'est pas là. Ce qui est tout à fait permis par la Constitution, c'est l'article 27 de la Constitution, si ce n'est que le Sénat ne le respecte pas. Au Sénat, les sénateurs, quand ils votent par scrutin public, ils prennent une pile de votes avec un nombre de votes égal au nombre de gens de leur groupe. Ils sont 5 dans l'hémicycle, mais ils vont, sur le papier, ils seront 348 à avoir voté. Alors qu'en théorie, ils auraient dû être maximum 10. Mais la Constitution impose qu'il n'y ait pas plus d'une délégation par ces parlementaires. Mais le Sénat ne le respecte pas. Il y a un contentieux avec le Conseil constitutionnel, mais c'est plus ou moins admis comme tradition.
Merci Benjamin et Sébastien.